Le journal avec Pascal Masirica.
Les titres du journal. État de siège en Ituri. La société civile locale pense qu'aucune opération militaire d'envergure n'est menée par les FARDC. La coalition de l'Union sacrée ne l'entend pas de cette oreille. Elle estime que cette opération militaire a permis de récupérer les villages qui étaient jadis occupés par des miliciens. Au Nord Kivu, la majorité des déplacés du volcan Nyiragongo qui étaient à Sake ont regagné la ville de Goma. Seule une cinquantaine de ménages sont restés à Sake. Il s'agit de ceux dont les maisons avaient été endommagées par la catastrophe. Notre invité, c'est Maître Derrick Kayimba. Ce défenseur judiciaire déplore la fermeture des juridictions civiles à Butembo depuis le début de l'état de siège. Il appelle les autorités compétentes à régler ce problème afin de limiter les conséquences qui en découlent. Madame, Messieurs, bonsoir. En Ituri, les avis divergent sur les résultats de 30 premiers jours de l'état de siège dans cette province. Pour la société civile, aucune opération militaire de grande envergure n'est encore menée par l'armée. Cette structure citoyenne fait remarquer que les violations des droits de l'homme se sont accrues et que 157 personnes ont été tuées par des miliciens. De son côté, la coalition de l'Union sacrée estime que l'état de siège a permis de récupérer certains villages qui étaient occupés par les groupes armés. À Bounia, explication d'Isaac Remoyopé.
Les unités commandant lancé l'offensive contre plusieurs positions des miliciens de la Côte des Côtes en territoire des Djougou depuis que l'état des sièges a été décrété en Ituri le 6 mai dernier. Bilan, plus de 20 villages récupérés par l'armée, mais aussi la réouverture du trafic sur la route nationale numéro 27. Les forces loyalistes ont également délogé les miliciens de la FPIC de Nyankunde et Marabo dans les territoires d'Irumu. Pour la société civile de l'Ituri, ces actions sont insignifiantes car les actions des groupes armés ont continué, notamment le meurtre des 157 personnes en 30 jours, l'enlèvement des 32 personnes et les pillages ou incendies de plusieurs maisons et véhicules. Son coordonnateur Dieudonné Lossa indique que l'armée sensibilise les miliciens au lieu de les traquer.
L'accent mis sur la sensibilisation plutôt que sur la traque des groupes armés par les gouverneurs, le message propagandiste de l'armée alors qu'il n'y a aucun groupe armé défait jusqu'à ce moment.
Le vice-gouverneur de la province indique que son gouvernement utilise plusieurs approches pour la restauration de la paix en Ituri, notamment la force et la sensibilisation des fils égarés à déposer les armes. Le général Benjamin Alongaboni.
La guerre a quand même des paramètres. Nous devons connaître le terrain, connaître la position de la population, connaître l'ennemi. Et la guerre n'est pas seulement résolue par les armes. Il y a certaines approches que nous devons aborder, notamment la sensibilisation.
Signalons que l'armée en Ituri a été dotée de 2 hélicoptères et l'effectif des militaires a été également renforcé. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans la province de Lomami, le directeur de la prison centrale de Ngandajika est placé sous mandat d'arrêt provisoire. Albert Kafuata Mubanga est poursuivi par le parquet de grande instance pour détournement de plus de 40 millions de francs congolais destinés à la ration des détenus. Pour en parler, retrouvons en Mbujimayi Esther Ndalafina.
Albert Kafuata Mubanga a passé sa 4e nuit à la prison centrale, un lieu où lui-même dirige depuis bientôt 8 ans. Les sources sur place affirment que cette arrestation intervient après plusieurs dénonciations faites par ses collaborateurs autour des détournements des subventions de l'État. Ces fonds sont consacrés à la ration alimentaire des pensionnaires de la prison centrale de Ngandajika et aux frais de fonctionnement de l'administration pénitentiaire. Bien avant son arrestation, le parquet de grande instance l'a d'abord interpellé pour des raisons d'enquête après son interrogatoire. La même source affirme que le directeur a tout de même reconnu son forfait. Depuis son arrestation, c'est le projet d'Itunga, une ONG locale qui vient à la rescousse aux détenus en leur offrant régulièrement la nourriture. Contacté, les sources judiciaires du parquet de grande instance se sont réservées de tout commentaire affirmant que le dossier est en instruction. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
On enchaîne avec le Nord Kivu où la majorité des déplacés du volcan Nyiragongo qui étaient à Sake ont regagné la ville de Goma grâce à l'appui du gouvernement congolais qui a déployé une trentaine de bus pour assurer leur transport. Selon des sources humanitaires, seule une cinquantaine de ménages sont restés à Sake. Il s'agit de ceux dont les maisons avaient été endommagées par la catastrophe. Un reportage à Goma de Bernard Nyangi.
Ce mercredi matin, 4 grands bus ont été déployés par le gouvernement provincial sur l'axe Goma-Sake. C'est pour récupérer les derniers déplacés de l'éruption qui demeurent encore dans les quartiers Mugunga et Lac Vert. Ils seront acheminés à Goma, indiquent les sources de la province. Sur place à Sake, après le grand mouvement de retour facilité hier par l'appui en transport du gouvernement, il ne reste plus de déplacés de l'éruption, indique le chef du groupe Mwakamuronza, Mwami Bauma Bitibu.
Le vice-gouverneur a supervisé cette opération-là jusqu'à ce que la dernière personne ait quitté Sake. Mais ceux dont leur maison avait été calcinée devaient rester en attendant de nouvelles dispositions. Nous avons à peu près une cinquantaine de familles. Nous avons préparé un site spécifique là où ils sont gardés.
Le vice-gouverneur du Nord Kivu estimait à environ 20 000 le nombre de déplacés qui étaient encore sur l'axe Sake. Les sources de la protection civile affirment que la distribution de l'assistance du gouvernement à ses retournés, telle qu'annoncée par le Premier ministre, n'a pas pu se faire à l'embarquement. Elle devrait avoir lieu dans les différents quartiers, une fois de retour à Goma. Pendant ce temps, les cadres de base sont déployés ce mercredi sur l'axe Kibumba pour des évaluations préalables avant la poursuite de cette opération sur cet axe. Goma. Bernard Ngangi, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, selon le dernier rapport d'Ucha, au moins 1340 enfants non accompagnés ont déjà été identifiés, dont plus de 1000 réunifiés. C'est grâce à une synergie de plusieurs acteurs impliqués dans cette opération. Ce rapport a été analysé pour nous par Jules Ngalomona.
D'une part, la Croix-Rouge de la RDC et son partenaire, le CICR, ont installé 6 points d'écoute au moyen d'une cabine téléphonique permettant à toute personne ayant perdu contact avec un proche de passer un appel téléphonique. D'autre part, faisant suite à la demande de l'UNICEF, les directeurs provinciaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique du Nord Kivu 1, Nord Kivu 3 et Sud Kivu 1 ont instruit les chefs d'établissement d'inscrire systématiquement les enfants déplacés dans les écoles situées dans leur lieu de déplacement. Enfin, afin d'accompagner le retour des populations déplacées, la Division provinciale des affaires sociales a déjà diffusé des messages à travers certaines radios locales dans ce sens. Elle a aussi déployé des assistants sociaux pour identifier les enfants séparés de leurs parents. Goma, Jules Ngalawa Mona, Radio Okapi.
Venons-en maintenant à la santé. Dans la province du Haut-Katanga, plus de 5600 personnes ont déjà été vaccinées contre le coronavirus. Cependant, sur le terrain, il s'observe un grand relâchement dans le respect des mesures barrières. Le ministre provincial de la Santé tire la sonnette d'alarme. La troisième vague de cette pandémie étant plus meurtrière. Il appelle par conséquent tous les services à faire respecter ces mesures. Joseph Sambi Boulanda est au micro de Jean Gandou.
Nous sommes à 2163 cas cumulés, 33 décès. Nous avons vacciné près de 5600 personnes. Nous multiplions les sites de vaccination puisqu'on est passé de 12 à 26. L'objectif est d'atteindre au moins 36 d'ici la semaine prochaine. Nous continuons la surveillance et la gestion des alertes et nous disons à la population que cette troisième vague s'annonce très meurtrière et très invasive. Il faudrait que nous puissions rester alertes et multiplier des séances de sensibilisation comme nous l'avons toujours fait à travers les relais communautaires et les autorités politico-administratives. Le gouvernement édicte des comportements à prendre et des comportements à éviter, mais la cité est quand même administrée. Il y a un maire de la ville et une police urbaine qui doit traquer les gens. La police doit jouer son rôle avec le ministère de l'Intérieur et nous dépistons les cas, nous mettons tout ce qui est de notre compétence comme service de santé pour soigner et diagnostiquer les cas.
La République démocratique du Congo est en proie à la troisième vague de la pandémie du coronavirus et avec la ville de Kinshasa comme l'épicentre. Annonce faite la semaine dernière par le ministre de la Santé publique. Le docteur Jean-Jacques Mbungani invite la population au respect des mesures barrières pour se mettre à l'abri du danger. Comment se comportent actuellement les Kinois face à cet appel, tentative de réponse dans ce reportage de Michel Otete?
Le long du boulevard Lumumba à Massina et Anjili où nous avons été, beaucoup de gens ne portent pas de masque. Nombreux parmi ceux qui en avaient le portaient plutôt au menton, nez et bouche à découvert. C'est le cas dans la plupart des taxibus. Dans les taxis par contre, le passager les portait correctement et certains taximens sont exigeants.
Pour moi, taximen, j'ai mon désinfectant. Et je désinfecte aussi mes clients. Si les clients ne portent pas de masque, on n'embarque pas.
Dans des lieux de forte fréquentation comme la place Victoire, les ponts Kabu, la station Kimbuto au quartier Njili, aucune distanciation n'a été observée. Il est clair que jusqu'à ces jours, beaucoup de Kinois ignorent l'existence de cette pandémie ou n'y croient tout simplement pas. Néanmoins, on a constaté que dans beaucoup de supermarchés et autres grandes boutiques, les mesures sanitaires restent de rigueur. Dans les restaurants de fortune, communément appelés Malewa, les avis sont partagés. Cette responsable des Malewa tient au respect des mesures barrières.
Nous couvrons bien nos aliments. Nous veillons aussi à ce que nos clients portent le masque.
Rappelons que depuis la déclaration officielle de la pandémie du Covid-19 le 10 mars 2020, les cumuls des cas est de plus de 33 777, dont 33 576 cas confirmés et un cas probable.
Merci Michel Outeté pour ce reportage. À Bandundouville, chef-lieu du Kwilu, tous les professionnels de santé, en dehors des médecins, sont entrés en grève de 3 jours ce mercredi. Ils réclament leur alignement à la prime de risque et la fusion du ministère de la Santé publique. Des précisions avec l'un des grévistes qui a été joint par Irène Baumin.
C'est au cours d'une assemblée générale tenue ce mardi dans la salle des réunions de l'hôpital général de référence de Bandundu, réunissant les infirmiers, les administrateurs gestionnaires, les techniciens des laboratoires, ainsi que tous les autres professionnels de santé, sauf les médecins qui ne sont pas concernés, que la décision de cette grève a été annoncée. La Jembunga Séverin est le secrétaire exécutif provincial du Syncas au Kwilu.
La grève commence demain, le 9 juin à 8h, c'est pour 3 jours. Renouvelable. Nous disons, personne ne viendra au service.
Les désidératas sont présentés ici par Iguette Pumbu, représentante de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo, INIC en sigle.
Alignement des agents jusque-là non payés à la prime des risques du personnel de santé dans le plus bref délai. Mise en œuvre des protocoles d'accord et rapports. Exécution stricte des crédits budgétaires selon les catégories prévues par la loi de finances exercice 2021. Fusion en deux ministères, dont l'un pour le médecin et l'autre pour les catégories professionnelles de la santé publique.
Aucun service minimum ne sera organisé durant toute la période que va prendre cette grève, a insisté la Jembunga. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité.
Politique à présent, la problématique de l'indépendance et de la politisation de la CENI au cœur du débat organisé ce mercredi au Sénat, ici à Kinshasa. La Chambre haute du Parlement examine en deuxième lecture la proposition de loi organique dite de Lutundula portant organisation et fonctionnement de la CENI. Après son adoption à l'Assemblée nationale, cette loi a été transmise au Sénat et qui a examiné par la Commission politique, administrative et juridique qui l'a soumise au débat général de la plénière d'aujourd'hui. Les préoccupations de la société civiles ont été remises à la table. Le compte-rendu de Michel Kifindangoy.
Après examen de la mouture adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, la PAJ du Sénat a apporté certains amendements, notamment au niveau des dispositions se référant à l'indépendance de la CENI, ainsi qu'aux fonctions des membres du bureau de cette institution. Au cours du débat général, certains sénateurs, comme Célestin Vounabandi et Vicky Katoumoua, ont plaidé pour le renforcement de l'indépendance des membres qui seront désignés au bureau de la CENI. Vicky Katoumoua.
Il faut vraiment que cette loi soit contraignante. Parce que nous autres, nous sommes victimes de la CENI. J'ai été remplacé les jours de la publication des résultats. Quand je devrais être député, moi j'aurais préféré, par contre, que la CENI ait à son sein uniquement des personnalités qui proviennent de la société civile.
Fustigeant le manque d'indépendance actuelle de la CENI, le sénateur Mokolo Apombo propose que cette institution soit totalement apolitique.
À chaque cycle, l'organisation des élections a perdu en qualité et en crédibilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas dépolitiser la CENI? Si on arrivait à des institutions stables, il faudrait remettre au ministère de l'Intérieur ses prérogatives.
Tous ces amendements sont donc transmis à la commission PAJ pour un examen approfondi.
Actualité internationale.
L'Union européenne va accorder une aide humanitaire de 250 millions d'euros pour lutter contre la faim en Afrique, en Afghanistan et au Venezuela. Annonce faite ce mercredi matin par la présidente de la Commission européenne avant le sommet du G7. À Washington, le Sénat américain vient d'adopter aujourd'hui un projet de loi prévoyant d'importants investissements dans le domaine de la science et des technologies. Ce domaine a été présenté comme un plan historique pour contrer la menace économique de la Chine et son modèle autoritaire. Un Français qui a été arrêté il y a un mois en République centrafricaine avec des armes de guerre est accusé d'espionnage, de complot et d'atteinte à la sûreté de l'État. Jean-Rémy Quiglo a été placé sous mandat de détention provisoire. Le procureur général près la cour d'appel de Bangui parle des charges graves. Éric Didier Tango affirme que l'incriminé encourt les travaux forcés à perpétuité.
L'invité.
Notre invité, ce maître Derrick Kahimba, ce défenseur judiciaire, déplore la fermeture des juridictions civiles à Butembo, au Nord Kivu, depuis le début de l'état de siège dans cette province. Il appelle par conséquent les autorités à régler ce problème afin de limiter les conséquences qui en découlent. Il s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Maître Derrick, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste.
Vous dites que les juridictions civiles dans le ressort du tribunal de grande instance de Butembo ont fermé. Comment ça?
Bon, en fait, nous aussi comme professionnels de droit, nous ne comprenons pas pourquoi les juridictions civiles en province du Nord Kivu et en province peut-être de l'Ituri ont fermé.
Au nom de l'état de siège?
Non, pas au nom de l'état de siège, parce que lorsque vous lisez l'ordonnance portant proclamation de l'état de siège à son article 3, vous vous rendez compte qu'il est dit l'action des juridictions civiles sera substituée par celle des juridictions militaires. Ce qui signifie tout logiquement que si on se limite à l'interprétation de cette disposition, on dirait bien évidemment même la compétence civile des juridictions civiles est aussi dévolue aux juridictions militaires. Mais lorsque vous lisez l'article 6 de l'ordonnance
à mesure d'application de l'état de siège,
il est dit que pour toute la durée de l'état de siège, la compétence pénale des juridictions civiles est dévolue aux juridictions militaires. Et là, j'insiste, la compétence pénale des juridictions civiles. Malheureusement, aujourd'hui, il s'observe que même pour ce qui est de la compétence civile, comme par exemple pour la matière commerciale, la matière de travail, la matière de divorce, par exemple, toutes ces matières-là, aujourd'hui, les juridictions civiles ont fermé. Ce qui signifie tout logiquement qu'il y a une sorte de déni de justice, parce que rien n'explique que les juridictions civiles soient fermées alors que les deux ordonnances ont été aussi clairement rédigées.
Vous parlez également du fait que les juridictions militaires sont submergées pendant cette période d'état de siège. Comment cela?
En principe, ici, pour les deux villes de Beni et Butembo, nous avons un tribunal militaire de garnison de Beni et Butembo. Et puis-je vous rappeler peut-être que pour les deux villes, donc avec le tribunal militaire de garnison de Beni et Butembo, nous avons un seul magistrat de carrière.
Les deux villes, mais aussi deux territoires, territoire de Beni et de Lubero.
Bien évidemment, nous avons un seul magistrat de carrière, ce qui signifie que le lundi et le mardi, il doit suivre les audiences à Beni et le jeudi et le vendredi, il doit venir ici à Butembo pour organiser les audiences foraines ici à Butembo parce que le siège du tribunal militaire de garnison de Beni et Butembo est basé à Beni. À côté de cela, vous allez remarquer que pour les deux villes de Beni et Butembo, nous avons deux magistrats de parquet, deux auditeurs. Le principal est basé à Beni, son premier substitut donc est basé à Butembo. Le premier substitut qui est basé par exemple ici à Butembo contrôle non seulement la ville de Butembo, mais également le territoire de Lubero. Vous comprenez ce que cela représente, c'est un peu plus que même la ville de Kinshasa. Donc, si on doit, par exemple, laisser à la ville de Kinshasa
un seul magistrat,
ça signifie qu'il y aura des dysfonctionnements.
Et qui traite notamment tous les dossiers en matière pénale, des juridictions civiles, mais aussi des dossiers des juridictions militaires.
Ce qui signifie que les juridictions militaires doivent nécessairement être submergées. Aujourd'hui, par exemple, ici à Butembo, on voit avec un seul magistrat qui s'est fait assister par peut-être deux APJ et d'autres stagiaires qui doivent instruire à son nom et pour son compte. Donc, vous remarquez qu'il y a des sérieux dysfonctionnements.
Tout ça, c'est l'effet de l'état de siège.
Bien évidemment, l'état de siège, normalement, l'intention peut-être de sa proclamation, elle est bonne, mais sa gestion semble ne pas être correcte.
Alors, vous parlez de deux problèmes, la fermeture des juridictions civiles, pourtant, elle devrait fonctionner. sanctionné avec tous les dossiers en matière civile, selon les ordonnances proclamant l'état de siège et aussi portant mesures d'application. Et aussi, vous parlez de la submersion des juridictions militaires par la multitude des dossiers. Maintenant, l'état de siège, il y a eu une prorogation et on suppose qu'il y en aura encore. Ça veut dire que la période, elle est longue. Qu'est-ce que vous recommandez aux autorités compétentes pour que cette situation soit solutionnée?
Dans un premier temps, je crois que les décisions qui ont été prises par les procureurs généraux et peut-être par les premiers présidents des cours d'appel de Nord-Kivu et de Litouri sont essentiellement politiques, elles ne sont pas juridiques. Parce qu'ordonner la fermeture des juridictions civiles, tout en sachant pertinemment bien que leur compétence civile n'a
pas... Mais les ordonnances dont nous faisons allusion n'ont pas ordonné la fermeture des juridictions civiles.
Tout à fait, c'est la raison pour laquelle nous estimons que les décisions prises par le premier président des cours d'appel du Nord Kivu et de l'Ituri sont inconstitutionnelles.
Maître Derrick, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, Maître Derrick Kihamba, ce défenseur judiciaire qui était interrogé par Sadiq Aboubakar à Kinshasa. Il est 18h20 et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir écouté. Merci infiniment à Noël Aluzitu Kabambi qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelle Équipe Lamondo. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.